Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h à Paris. Le journal avec Pierre Boudiaz. Bonjour Pierre.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. L'Égypte à la manœuvre pour empêcher le déplacement forcé des populations hors de Gaza. Le Caire annonce organiser une réunion d'urgence des pays arabes à la fin du mois. Un sommet en forme de réponse aux récentes propositions de Donald Trump. La lumière européenne éclaire désormais les pays baltes. Estonie, Lituanie, Lettonie ont officiellement rejoint le système électrique européen. Une nouvelle rupture avec Moscou célébrée dans la région, vous l'entendrez. Les nationalistes hindous toujours plus hégémoniques en Inde. Le BJP du Premier ministre Narendra Modi a remporté hier l'élection régionale de New Delhi, une première depuis 1998. Et puis Sinale Diomande veut poursuivre son comeback. Le joueur de foot ivoirien en pleine forme avec son équipe d'Auxerre. Le défenseur central tentera de confirmer ce soir sur le terrain d'Angers. L'armée israélienne se retire du corridor de Netzarim dans la bande de Gaza. Confirmation du Hamas alors que l'abandon par Tel Aviv de ses positions dans ce couloir qui relie le nord au sud de l'enclave était inscrite dans l'accord de trêve. Les négociations sur la seconde phase du cessez-le-feu doivent commencer la semaine prochaine au Qatar. Et dans ce contexte, l'Égypte a annoncé qu'elle accueillera le 27 février prochain un sommet arabe extraordinaire. On retrouve tout de suite notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchianti. Bonjour.
Oui, bonjour.
Réunion lors de laquelle doivent être discutés les derniers développements graves pour la cause palestinienne.
Oui, en fait, le sommet doit répondre aux récentes propositions du président américain Donald Trump de contrôler Gaza pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Alors, un sommet où le Caire est aux manettes, puisqu'il est aussi directement concerné par une autre proposition du président Trump, évacuer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. S'il ne fait pas de doute que les propositions américaines seront rejetées par le sommet arabe, il sera intéressant de voir quelle sera la formulation de la résolution. Un rejet violent, comme le souhaitent les pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël, ou un rejet ferme mais modéré de la part des pays qui ont reconnu directement ou indirectement l'État hébreu. La reconstruction de Gaza et la participation arabe sera aussi abordée.
Alors Alexandre, cette résolution risque de déplaire à l'administration américaine.
Et c'est justement pour prévenir un malentendu qui pourrait mener à une mésentente que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelhadi, a annoncé qu'il se rendait à Washington. Il doit y rencontrer les hauts responsables de l'administration et du Congrès pour expliquer la position arabe et surtout la position égyptienne. Une Égypte qui reçoit annuellement 2 milliards de dollars d'aide économique et surtout militaire des États-Unis.
Alexandre Bouchianti, vous étiez avec nous en direct depuis le Caire. Merci. Lui aussi en déplacement aux États-Unis depuis le début de la semaine. Le premier ministre israélien assure que son pays se tient prêt à faire le travail pour mettre en œuvre les projets du président américain à Gaza. Dans une interview sur Fox News, Benjamin Netanyahou assure qu'aucun soldat américain ne sera déployé dans l'enclave et qu'un éventuel déplacement des Palestiniens ne serait que temporaire et aurait pour but de la reconstruire. Ce sont ses mots. Il prévient cependant, pour revenir, les populations devraient renier le terrorisme. Fin de citation. Et au-delà de Gaza, Donald Trump assure également être engagé dans les négociations pour la paix en Ukraine. Le président américain affirme s'être entretenu directement avec Vladimir Poutine pour évoquer un éventuel cessez-le-feu en Europe de l'Est. Dans une déclaration au Washington Post, que le locataire de la Maison-Blanche assure que son homologue russe veut, je cite, que les gens arrêtent de mourir. Dans ce contexte, Moscou revendique pourtant la prise d'un nouveau village dans l'est ukrainien, dans la région de Donetsk. La guerre en Ukraine qui a accéléré la rupture des pays baltes avec la Russie, Lettonie, Lituanie et Estonie qui viennent de tourner une page en intégrant le système électrique européen. 35 ans après avoir regagné leur indépendance, ils se mettent donc à l'abri de toute pression de Moscou sur le plan énergétique. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Vilnius, Marielle Vituro. Marielle, cette étape est célébrée comme un jour de fête dans la région.
Oui, tout à fait. L'entrée effective dans le système européen a eu lieu il y a tout juste une heure. Les présidents des trois pays baltes l'ont annoncé dans une conférence de presse. C'est un jour historique et un jour de liberté, ont souligné les trois présidents. Alors, ce processus de synchronisation avait été lancé en 2007. Il a pris du temps. Les négociations politiques entre les trois pays ont duré une dizaine d'années. Cette sortie du système russe a coûté 1,7 milliard d'euros. L'Union européenne en a financé 75%. Alors, hier, samedi, à 9h09 du matin, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont coupé les les liens avec l'ancien système. Durant toute la journée, 8 essais imitant des perturbations sur le réseau électrique ont été menés pour éprouver la capacité du système à rétablir les dysfonctionnements. Les pays s'étaient préparés à de possibles problèmes. Par exemple, en Estonie, 8 stations essence avaient été désignées stations de secours, capables de fonctionner en autonomie en cas de besoin. Alors, la Lettonie et l'Estonie ont déjà sectionné les câbles les reliant à la Russie et la Biélorussie. La Lituanie le fera d'ici la fin du mois. Et ensuite, ces câbles et ces poteaux électriques seront remis à l'Ukraine afin de l'aider à réparer les infrastructures électriques endommagées par la Russie.
Marielle Vituro, merci. Vous étiez avec nous en direct depuis Vilnius, en Lituanie. Pour le Kosovo, l'indépendance vis-à-vis cette fois de la Serbie, c'était en 2008. Les relations avec Belgrade au cœur du scrutin législatif qui se tient aujourd'hui dans le pays des Balkans. Partisan d'une ligne dure vis-à-vis du voisin serbe, le premier ministre sortant Albin Kurti est donné largement favori. Le social-démocrate qui a notamment fait fermer des institutions financées par la Serbie dans le nord du Kosovo. Les bureaux de vote qui ont également ouvert en Équateur, les électeurs de ce pays d'Amérique latine au taux élevé de meurtres par habitant sont appelés à choisir leur futur chef de l'État. La question sécuritaire a cristallisé le débat entre les deux favoris, le sortant Daniel Noboa et son adversaire de gauche, Luisa González, le premier partisan de plus de fermeté face au cartel, la seconde d'une sécurité respectueuse des droits humains. En Inde, l'actualité électorale, c'était hier et c'était un véritable coup de tonnerre. New Delhi s'est en effet réveillé avec l'écrasante victoire du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi aux élections de l'Assemblée de Delhi, dont les résultats ont été révélés hier soir, un événement politique inédit pour le parti Safran qui triomphait tout autour de la capitale sans jamais parvenir à s'y implanter. Cette prise de guerre de la droite nationaliste hindoue dessine un nouvel avenir politique en Inde. Correspondance de Léa Oja.
Le Premier ministre Narendra Modi célèbre la victoire historique du BJP. Nous garantissons que nous ne négligerons aucun effort pour développer Delhi et améliorer la qualité de vie de ses habitants, a-t-il écrit sur le réseau social X. Le parti nationaliste hindou a remporté 48 sièges de l'Assemblée législative composée de 70 membres. Preuve que la popularité de Modi reste intacte malgré sa victoire sans triomphe aux dernières élections législatives de 2024. Pour le journaliste et spécialiste politique de Delhi, Siddharth Misra, le parti a mis toutes ses forces pour s'emparer de la capitale après 27 ans d'absence.
Le BJP dispose désormais d'un important leadership ici. Le BJP a travaillé sur une campagne de porte-à-porte en allant à la rencontre des Indiens. Le Premier ministre a aussi organisé des rassemblements publics et il a également misé sur la promotion numérique du parti via une application.
De leur côté, l'AAP, le parti perdant dont le leader Arvind Kejriwal a salué la victoire du BJP, a remporté seulement 28 sièges, une défaite écrasante pour celui qui a misé sur des réformes sociales destinées au laissé-pour-compte de Modi. Le Premier ministre l'a bien compris et a promis des aides financières à toutes les femmes pauvres, aux personnes âgées et aux jeunes touchés de plein fouet par le chômage. Léa Ojal, RFI, New Delhi.
Et puis un mot de sport et de football pour finir en Ligue 1. La JOCR reçoit Toulouse ce dimanche à 16h15 au stade de l'Abbé des Champs. Les Bourguignons ne gagnent plus depuis fin novembre et le TFC ne va guère mieux avec 4 matchs de rang sans succès. L'arrière-garde auxerroise a l'occasion de se rassurer après avoir encaissé 4 buts le week-end dernier à Monaco. Une contre-performance qui masque la renaissance de l'international ivoirien Sinali Diomandé, sûrement sur le pont aujourd'hui, Babacar Diarra.
Reculer pour mieux sauter, c'était le plan d'attaque de Sinali Diomandé en arrivant à Auxerre. Le défenseur l'applique à merveille à l'image de son but d'anthologie le week-end dernier à Monaco.
Le ballon il vient, je dis au coq qui fait délaisser, je la frappe. Et elle va en plein lucarne. Moi, j'ai été surpris. Je sais même pas comment j'avais célébré ce but.
Un but qui dit tout de la confiance retrouvée d'un joueur mis sur la touche par Pierre Sage à Lyon. La saison dernière l'avait déboussolé. Sa signature à Auxerre l'a régénéré.
Ils m'ont tout de suite accepté dans la famille, tu vois. Chacun est là l'un pour l'autre. À Lyon, c'était pas le cas. Tout le monde est un peu grand, tu vois. Chacun est dans son positionnement, tu vois. Mais ici, c'est vraiment différent.
En parallèle de son adaptation à un club guidé par sa course au maintien, Sinali Diomandé a regoûté à la sélection ivoirienne version Emer Sefaé. Un retour plus de 2 ans après sa dernière convocation. Son absence l'avait laissé spectateur de la canne à la maison.
Si ça n'a pas été le cas, ça veut dire la prochaine, pourquoi pas. C'est pour ça que je me donne tous les moyens aujourd'hui de participer à la canne qui arrive. La concurrence, ça fait partie du foot. La sélection ivoirienne, c'est une grande nation africaine. Il y a des bons joueurs de partout.
L'objectif canne est ouvertement affiché pour l'enfant de Youpougon, qui sera attentif à la liste d'Emer Sefaé pour les matchs face au Burundi et à la Gambie dans un mois.
Et bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.